Aujourd'hui sur Balado Saint-Lô, Alexandre Lefrançois reçoit Philippe J. Fournier, tous deux professeurs au Cégep de Saint-Laurent. Bonne écoute.
Salut, bienvenue au Balado Saint-Lô. Mon nom est Alexandre Lefrançois. J'enseigne l'histoire et la sociologie au Cégep ici. Et mon invité aujourd'hui est Philippe J. Fournier, que je vais inviter à se présenter.
Bonjour Alexandre. Donc, je suis Philippe J. Fournier du département de physique ici au Cégep de Saint-Laurent. Je ne suis pas invité comme astrophysicien ou comme physicien ici, mais je vais laisser l'animateur parler du sujet. Mais je suis aussi chroniqueur au magazine L'Actualité et aussi chroniqueur au magazine McLean's.
Alors, si vous ne le saviez pas, notre collègue Philippe est non seulement un prof en physique ici, mais est un très grand spécialiste, surtout un analyste des sondages. Et aujourd'hui, on va jaser un petit peu de ça, on va discuter des sondages. Alors, pour commencer, Philippe, j'aimerais qu'on fasse un petit lexique.
Oui.
Des sondages, parce que, bon, ça peut sembler un peu technique, cette chose-là. Il y a des termes comme ça qui circulent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Premièrement, on va commencer avec le plus simple. C'est quoi un échantillon?
Donc, on commence avec la base. Un sondage, et là, bien sûr, moi, je suis spécialisé plus dans le sondage politique, particulièrement, mais pas uniquement les intentions de vote. On demande à des personnes pour qui croyez-vous voter, pour quel parti, pour quel candidat. Et avec ça, on assemble les résultats. Et si on demande à suffisamment de personnes, on pourrait se ramasser ce qu'on appelle un échantillon représentatif de la population. Et si, généralement, c'est autour de 1000 personnes, on a une marge d'erreur, on y reviendra un peu plus loin, c'est quoi la marge d'erreur, mais une sorte d'incertitude du sondage qui va être de quelques points, qui va être suffisamment proche de la réalité. Mais un échantillon, c'est ça, c'est tu demandes à suffisamment de personnes, il faut que tu aies assez d'hommes, assez de femmes, assez de jeunes, assez de vieux, assez de riches, assez de pauvres, ainsi de suite. Tu t'arranges pour que le groupe de personnes à qui tu as demandé tes questions soit un échantillon représentatif de la société ou du moins des personnes que tu veux sonder. Des personnes que tu veux avoir le résultat. Si tu veux faire une analyse de, pas de politique, mais une analyse de marché, ben tu t'intéresses par exemple à tes futurs clients. Donc, tu ne vas pas trouver un échantillon représentatif de la population, mais de tes clients. Donc, en gros, on fait le sondage, c'est encore une fois les études de marché. Et quand on parle de politique, ben, c'est important d'avoir des échantillons d'électeurs représentatifs.
Parfait, l'échantillon, il doit être représentatif, mais tu me dis que seulement 1000 personnes peuvent nous donner une indication de, par exemple, quel parti va gagner l'élection.
C'est pas un peu petit? C'est petit et c'est la beauté des statistiques. Et j'ai souvent ce commentaire-là, que ce soit sur Facebook ou même de politiciens qui devraient savoir mieux selon moi, mais même de certains politiciens, ils disent « Oui, mais le Québec a 8,5 millions d'habitants, t'as demandé à 1000 adultes. Comment est-ce que tu peux croire que demander à 1000 personnes, c'est représentatif? » Bien sûr, il y a plusieurs mauvaises façons de faire des sondages et d'avoir des mauvais échantillons. Cependant, si tu prends l'exemple des bons vieux sondages, c'était téléphonique.
Ouais.
Et donc, tu avais une banque de numéros de téléphone au Québec ou au Canada et tu composais des numéros de téléphone au hasard jusqu'à temps que tu arrives à quelqu'un qui est un électeur potentiel et tu lui poses des questions.
Ouais. Je me rappelle quand j'étais petit, là, à l'heure du souper, le téléphone sonnait tout le temps.
Les galopes, les crops, les ainsi de suite. Donc, les légers et légers. Et donc, si tu fais un échantillon qu'on appelle probabiliste, donc les répondants sont choisis au hasard, ben oui, 1000 personnes, c'est amplement suffisant pour avoir une marge d'erreur raisonnable d'environ 3% sur ton échantillon.
Je t'arrête tout de suite, Philippe. Oui. Là, tu viens de dire un autre gros mot, probabiliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Probabiliste, non probabiliste, c'est quoi ces concepts-là?
Le terme probabiliste veut dire que l'échantillon est choisi au hasard.
OK.
Carrément au hasard. Tu as une banque de numéros de téléphone, par exemple, et tu appelles des numéros de téléphone jusqu'à temps que tu aies suffisamment de gens qui te répondent. Quand ton échantillon est choisi au hasard, et là, ici, je vais faire mon prof de sciences de la nature, mais c'est comme si tu avais un gigantesque piscine avec des boules rouges, des boules bleues, des boules blanches, des boules vertes, et tu en piges au hasard. Admettons que tu as, je sais pas moi, un tiers rouge, un tiers bleu puis un tiers verte. Ben, si tu piges suffisamment de boules, éventuellement, tu vas voir que ton échantillon et représentatif de la quantité de billes qu'il y a dans ta piscine.
Parce que tu as pigé au hasard.
Parce que tu as pigé au hasard. Ouais. Et c'est l'effet naturel des statistiques, en fait. Les chances que, admettons que je pige 1000 billes, pardon, et qu'elles soient toutes rouges ou toutes bleues ou toutes blanches, les chances sont astronomiquement petites.
Ouais.
C'est la base même de toutes les statistiques.
Mais c'est pas impossible.
C'est pas impossible, mais là, on pourrait parler de très grands chiffres. Et encore une fois, je suis astrophysicien, et des grands chiffres, je connais ça. Piger 1000 billes rouges dans une piscine qui a un tiers de billes rouges, ça serait probablement, ça prendrait plus de temps que l'âge de l'univers pour y arriver. Et donc, on parlerait de milliards d'années. Donc, ça n'arrive pas.
Ouais.
Mais je comprends et je conçois que pour des gens qui ne sont pas initiés à ça, ils vont voir 1000 personnes sur une population, le Canada, 37 millions de personnes. Ça semble un peu ridicule en premier, mais on enseigne ça au niveau collégial, la base même des statistiques.
OK. Donc là, si je comprends bien, un sondage probabiliste, il est fait vraiment avec le hasard. Puis on se dit que si on pige assez de boules ou assez de personnes, le hasard va nous donner un portrait assez représentatif. Tandis que non probabiliste, ce serait des échantillons qui sont pas conçus ou qui sont pas choisis avec le hasard. Peux-tu me donner un exemple d'échantillon qui serait pas probabiliste?
Les sondeurs au Canada et au Québec et aux États-Unis, partout dans le monde, ont des défis de plus en plus grands de rejoindre les électeurs. Il était un certain temps, encore une fois, que c'était on téléphonait sur l'heure du souper, comme tu as dit. Et le taux de réponse à l'époque, je parle des années 80-90, les sondeurs m'ont dit que les taux de réponse pouvaient être environ 20 %. Donc, chaque 5 numéros de téléphone que tu appelles, il y en a un qui va répondre à tes questions.
Ouais.
Ça semble bas, mais aujourd'hui, c'est autour de 3 à 4 %. Et donc, ça veut dire qu'il faut appeler 25 ou 30 numéros de téléphone pour en avoir un.
Exactement.
Et donc, si tu veux avoir un échantillon de 1000 répondants, ça veut dire qu'en moyenne, il faut appelle 30 000 répondre, 30 000 numéros de téléphone. Donc, c'est insensé. Et donc, on a commencé, avec l'usage de l'Internet, bien sûr, à assembler des échantillons qui, comme ils sont assemblés, ils ne sont pas aléatoires. Ils ne sont pas faits au hasard.
OK. Donc, on va peut-être revenir là-dessus tantôt, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que beaucoup de maisons de sondage aujourd'hui, surtout quand on fait de l'opinion, dans le fond, n'utilise pas des échantillons probabilistes et utilise des échantillons non probabilistes. On va revenir là-dessus tantôt. Continuons avec d'autres termes là, qui peuvent nous chicoter là, quand on lit des sondages. Je pense à la marge d'erreur.
Oui.
C'est quoi une marge d'erreur? Tu nous as dit tantôt que si on pige assez de boules, ben, on va avoir un échantillon qui est représentatif, mais elle vient faire quoi, la marge d'erreur, là-dedans?
Donc, la marge d'erreur, et là, bien sûr, il faut faire attention entre le terme marge d'erreur et le terme du langage parlé marge d'erreur. Quand on dit marge d'erreur, généralement, ce que l'on veut dire, c'est on veut parler de l'incertitude. Parce que si, encore une fois, dans ton échantillon, tu as un tiers, un tiers, un tiers, ça se peut que tu aies 30 % ou 35 % ou 36 % ou 29 %. Tu ne seras pas pile dessus, pile sur le chiffre, mais tu vas être proche. La marge d'erreur au sens statistique, ça se calcule avec la taille de l'échantillon. Ça te dit quelle va être ton espérance de précision sur ta mesure. Donc, quand tu as un échantillon de peut-être 500 personnes, on parle d'une marge d'erreur de plus ou moins 5 points. Par exemple, si tu vois un sondage où que la CAQ est à 40 % et ton échantillon est de 500 personnes, ben ça veut dire que la CAQ va être entre 35 et 45.
Okay.
C'est ça que ça veut dire.
Okay, exactement.
Donc, c'est un estimé. Encore une fois, c'est une science. Tu sais, les sondages et les méthodes quantitatives, ça fait partie, bien sûr, du grand domaine des sciences sociales, mais c'est avant tout une science pure. Et la science pure, ça veut dire qu'il y a de l'incertitude. Et donc, c'est difficile pour certaines personnes d'accepter que le fait que, oui, c'est un estimé des intentions de vote. Donc, c'est ça la marge d'erreur. Cependant, avec des échantillons non probabilistes, comme les sondages Internet que font plusieurs firmes canadiennes, dont Léger ici au Québec, on ne peut pas utiliser le calcul de la marge d'erreur parce que ton échantillon n'est pas aléatoire.
OK. C'est relié, ces deux choses-là.
Bien sûr, c'est relié. Et c'est très important, c'est que les sondages Léger, par exemple, et là, je vise Léger parce que c'est la firme québécoise, mais il y en a d'autres, bien sûr, au Canada, c'est ils vont choisir d'une banque de données. Tu dois t'inscrire dans la banque de données pour pouvoir sélectionner pour un sondage. Évidemment, si tu vas t'inscrire à un sondage, peut-être que tu as des motivations. Peut-être que tu as des motivations politiques. Peut-être que, justement, tu veux donner ton opinion. Et la population en général ne veut pas nécessairement donner ton opinion. Mmh. Donc, juste le fait que tu t'inscrives à la base de données indique que tu n'es pas représentatif. Donc, c'est un problème.
Okay.
C'est un problème. Donc, ce que d'autres, plusieurs films, dont Léger a fait, Léger a au-dessus de 300 000 Canadiens dans sa banque de données et ils vont au hasard choisir dans cette banque de données-là quand ils font un sondage de peut-être 1 500 personnes.
Fait qu'en termes peut-être un peu plus techniques, ils ont comme créé une population artificielle.
Exactement. Donc, ils ont créé un échantillon qui devrait être représentatif. Mais la seule façon de le savoir, c'est représentatif, c'est de le tester.
Okay.
Et donc, quand vous allez lire ça dans des rapports de sondage, le sondage n'est non probabiliste, donc la marge d'erreur ne s'applique pas. Ça ne veut pas dire que le sondage n'a pas d'incertitude, mais c'est qu'il n'y a pas d'équation directe pour pouvoir l'exprimer. J'ai échangé avec plusieurs sondeurs au Canada depuis que j'ai commencé Québec 125 et c'est quelque chose qui dit ben, pour savoir c'est quoi l'incertitude, il faudrait le faire et le refaire et le re-refaire et le re-re-refaire et le comparer constamment à des élections. Et là, on aurait une idée à quel point c'est représentatif. Uh-huh. Sauf que bien sûr, le problème, c'est que le temps passe et les opinions changent et les intentions de vote changent.
Ben, tu parles de Québec 125. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce projet-là? Ben, je pense qu'on est rendu là. On a fait le tour de notre lexique. C'est quoi Québec 125?
Donc, j'ai mentionné tantôt que j'écrivais pour l'actualité et McLean. Ils m'ont pas choisi pour mes aptitudes en astrophysique, bien sûr. En 2016, après l'élection Trump-Clinton, l'élection américaine Trump-Clinton, j'étais tellement abasourdi par la couverture des sondages, particulièrement aux États-Unis.
OK, ça ressemblait à quoi?
Ça ressemblait à Clinton va gagner, c'est sûr, parce qu'on dit qu'elle a 2 chances sur 3 de gagner, donc c'est sûr qu'elle va gagner.
Ouais.
C'était une totale incompréhension de ce que sont les probabilités et les statistiques. Et je voyais, et je fais attention, parce que je travaille avec beaucoup de journalistes aujourd'hui, je fais attention pour ne pas les insulter, mais je voyais plusieurs journalistes qui, clairement, ne comprenaient pas ce qu'ils écrivent. Un journaliste
on n'aimera pas de nom.
Ben, c'est ça. Un journaliste qui, je me rappelle, je vais le dire, c'était dans le Journal de Montréal, un sondage léger qui montrait les libéraux et le PQ à 1 point d'écart et c'était les libéraux mènent par 1 point. Et j'ai dit, waouh, faut vraiment pas avoir fait son cours de cégep pour pouvoir écrire quelque chose comme ça.
Je pense que je l'avais montré à mes étudiants.
Exactement.
Cette une-là en plus.
Montrer à mes étudiants, c'est totalement ignorer c'est quoi l'incertitude, la marge d'erreur ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Et donc, j'ai décidé de partir un blog dans mon propre temps. Bien sûr, j'étais prof à temps plein ici. Je suis encore prof en passant ici à Saint-Laurent.
C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, d'ailleurs.
C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais donc, j'ai parti un blog sur la vulgarisation des sondages, particulièrement appliqués au Québec et au Canada.
Donc, c'est un blog. Québec 125,
ça a commencé comme un blog et c'est devenu un site web qui fait des projections électorales pour toutes les provinces canadiennes et bien sûr le fédéral. Et j'ai aussi plongé dans l'élection américaine. Donc, c'est ça. C'est un site de projection électorale qui est devenu très populaire et j'en suis bien heureux. donc, c'est aussi pour ça que je suis ici parce que tu ne me connaîtrais pas. C'était pas de ça.
Non, surtout qu'on n'enseigne pas dans le même pavillon. mais donc, tu dis que tu projettes des résultats électoraux. Dans le fond, tu joues un peu le jeu de la prévision, de la prédiction.
C'est bien ça.
Comment tu fais? C'est quoi tes données? C'est quoi les données que tu rentres dans ta machine à saucisses, là?
J'ai commencé à regarder les tendances électorales par circonscription.
OK.
Le Québec fonctionne beaucoup par vagues. Et on n'est pas les seuls, bien sûr, mais le Québec, particulièrement depuis le début du 21e siècle, le Québec fonctionne par vagues.
Oui, qui sont d'ailleurs pas les mêmes aux élections fédérales et provinciales.
C'est partout, ça bouge tout le temps. Et c'est pour ça que plusieurs partis fédéraux et provinciaux se disent, bon, on sait jamais, peut-être qu'on va gagner le Québec cette fois-ci. Et on peut retourner jusqu'à la vague orange de 2011 avec Jack Layton. Je veux dire, 3 mois avant ça, personne n'avait vu venir. Mais le Québec fonctionne par vagues. Si on regarde l'élection de 2008 au Québec, libéral majoritaire Jean Charest.
Ouais.
On avance 4 ans, 2012, on a PQ minoritaire. On regarde les 125 circonscriptions. Le PQ a augmenté son vote dans 124 des 125 circonscriptions.
Okay.
Les libéraux ont diminué dans 123 sur 125.
Okay.
Donc, tout le monde au Québec, partout, dans toutes les régions, toutes les circonscriptions, les libéraux ont chuté, le PQ a monté.
Ouais.
1 an et demi plus tard, on a l'élection 2014, Philippe Couillard qui l'emporte, victoire majoritaire. Les libéraux ont monté dans 125 des 125 circonscriptions. Okay. Le PQ a reculé dans 124. La seule qui n'a pas reculé, c'était Matane-Matapédia, circonscription de Pascal Bérubé. Et donc, Maintenant, on voit le Parti libéral est passé de 33 % en 2012 à 41 % en 2014. Okay. C'est une augmentation de 8 points. Ouais. Donc, un modèle mathématique de niveau zéro super simple prendrait le résultat de 2012, ferait plus 8 partout et obtiendrait une estimée pour 2014.
Ouais.
Évidemment, c'est pas ça que je fais, mais on commence là.
OK.
Et là, tu regardes, ben c'est pas 8 points uniformes partout. Où est-ce que les libéraux ont augmenté plus? Où est-ce qu'ils ont augmenté moins? Parce qu'ils ont augmenté partout. Et après ça, tu essaies de déterminer, mais c'est quoi le modèle de l'électeur? Qui a voté plus libéral cette fois-ci? Les jeunes, les vieux, les étudiants, les... Et donc, on regarde les données démographiques de Statistique Canada. Tu m'as demandé d'où viennent mes données, Statistique Canada. Okay. Et on fait un profil d'électeur pour chacun des partis. Donc ça, c'est la base du modèle Québec 125.
Puis là, après ça, dans le fond... Si je comprends bien, tu vas ramasser tous les sondages que tout le monde lit à chaque jour ou presque durant une campagne électorale, puis tu les passes dans cette machine-là.
Exactement. Donc, je fais une moyenne pondérée. Je prends, bien sûr, la taille de l'échantillon. Un sondage va avoir plus de poids le jour qu'il est publié. Il va perdre du poids au fur et à mesure que le temps avance. Uh-huh. Et bien sûr, et là, ça, c'est quand même assez récent dans le modèle, mais je fais une cote des sondeurs. Tous les sondeurs ne sont pas créés égaux. Certains sondeurs performent plus que d'autres. Et donc, il faut faire une sorte de bulletin des sondeurs. Et certains sondeurs n'étaient pas vraiment contents que je fasse ça, mais je crois que c'était quelque chose d'important à faire pour la transparence du modèle. Et donc, c'est ça que je fais. Et jusqu'à maintenant, j'ai couvert 7 élections au Canada et j'ai un taux de réussite de 90 % en termes des gagnants de circonscription.
Okay.
Donc, j'ai pas toute raison partout, mais un modèle qui a raison 9 fois sur 10 mérite qu'on lui donne l'attention.
Donc, si je comprends bien, tu prends les sondages qui sont ce qu'on dit nationaux.
Oui.
C'est-à-dire, on a trouvé un échantillon représentatif, par exemple... du Québec.
Oui.
Toi, tu prends ça et tu essaies de moduler ces chiffres-là dans chacune des circonscriptions.
C'est exact.
J'imagine qu'aux États-Unis, comme tu travaillais sur l'élection présidentielle, tu as fait ça avec les États.
C'est exact.
OK.
C'est exact. Et c'était beaucoup plus, comment je peux dire, les sondeurs américains ont des problèmes. Les sondages aux États-Unis...
par exemple?
Ils n'ont pas été aussi pires qu'on le dit, en fait. Beaucoup de médias sont tombés sur les sondeurs. Mon modèle a prédit 48 États sur 50.
Okay.
Je veux dire, c'est pas si mal que ça. Rater la Floride, bien sûr, la Floride, toujours la Floride. et la Caroline du Nord, qui était un État pivot. J'avais la Caroline du Nord pour l'élection présidentielle. J'avais Biden plus un, et c'est Trump plus un, finalement.
Okay.
Donc, c'est bien à l'intérieur de la marge d'erreur.
Oui, oui.
Mais,
qu'on a défini tantôt.
Oui, bien sûr. mais c'est beaucoup plus difficile de faire ça au Canada parce que les circonscriptions sont petites. Au fédéral, c'est environ 100 000 électeurs par circonscription.
Okay.
Et donc, c'est pas des États de plusieurs millions d'habitants. Donc, c'est plus touché, je dirais, en effet. Et il y a, bien sûr, une plus grande incertitude. Si vous visitez Québec125.com, et vous allez voir qu'il y a des projections pour chaque circonscription.
Oui.
Au sein d'une circonscription, la marge d'erreur, ou plutôt, devrais-je dire, excusez-moi, l'incertitude, c'est autour de 6 ou 7 plus ou moins 6 ou 7 par parti. Donc, ça vous donne un éventail. Les gens, des fois, sont frustrés de ne pas avoir de la précision, sauf que si tu veux de la précision, ben sors 12 000 $ de ton portefeuille pour acheter un sondage local. Moi, j'ai pas cet argent-là,
exactement,
bien sûr. Donc, on fait des projections, on prend les sondages nationaux, provinciaux, et bien sûr, dans certains sondages, on découpe ça aussi par région.
J'ai une question pour toi qui vient de popper dans ma tête, là. Pourquoi les grandes maisons de sondage qui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils n'ont pas développé un modèle comme ça?
Oh,
pourquoi ils n'ont pas engagé Philippe Fournier?
Premièrement, j'ai déjà une carrière. Ça, c'est important parce que oui, j'ai reçu des offres d'emploi, je peux le dire. J'ai déjà une carrière ici au Cégep de Saint-Laurent et j'en suis très heureux. Mais pourquoi ils ne font pas ça? C'est que ça coûte très cher.
OK.
Et la crise qui secoue les médias présentement font que bien des médias, on parle de médias écrits, Journal de Montréal, La Gazette, peu importe, la presse, ne peuvent plus vraiment payer pour un sondage.
Parce que c'est
sondage.
Eux qui payent ces fameux sondages-là.
En partie.
OK.
Un sondage téléphonique de 1000 personnes au Québec coûterait environ 12 000 $ à faire.
Okay.
C'est impossible pour une entreprise comme la presse, Le Devoir, ou même le Journal de Montréal, de se dire, on va dépenser 12 000 $ pour un sondage et on va rendre ça rentable. C'est impossible.
Donc,
ça ne fonctionne pas.
Comment ça se fait? Comment ils payent les maisons?
C'est que si ce n'était pas des sondages politiques, comment est-ce que vous entendriez parler de la Maison Léger?
Uh-huh.
c'est de la publicité pour eux.
Okay, okay.
Des sondages politiques servent aux maisons de sondage à montrer, regardez, okay. On est précis. On peut vous donner un chiffre et en plus, comme il va y avoir l'élection, on peut le vérifier. Mm-hmm. Des études de marché qui disent, ben voici combien de personnes veulent avoir des Krispy Kreme ou des Dunkin' Donuts, ben t'as un chiffre, puis okay, ça peut t'intéresser. Mais comment est-ce que vraiment tu vas le vérifier? Le meilleur moyen, c'est de faire des élections et okay. de faire voter les gens.
Okay,
et donc,
okay.
c'est une vitrine pour eux.
Ah, wow, OK.
Et donc, c'est une dépense publicitaire pour plusieurs d'entre eux.
OK. OK, OK, ça marche.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, et si je vas-y. Te permettre, c'est que des mauvaises maisons de sondage ou des maisons de sondage qui ont eu des mauvaises runs, si je peux me permettre l'anglicisme ouais, ouais. ici, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils font faillite parce
oui.
que c'est leur publicité. Ils jouent leur réputation.
Ouais, c'est et ça, donc, la confiance n'est plus là, là.
Exactement. Donc, un sondeur qui, par exemple, pourrait être partisan, en dire je vais changer un peu mes chiffres pour gonfler les chiffres d'un ouais. parti ou d'un autre, ben, si ça sait, la réputation est dans les toilettes, et si, rendu aux élections, on voit que les tendances sont toujours les mêmes, on oui. va dire, ben vous n'êtes pas crédible. Et donc, les maisons de sondage et de mesures d'opinion publique et de marketing, bien sûr, parce qu'ils font beaucoup plus d'argent avec, justement, leurs contrats privés, c'est basé sur leur réputation.
Okay.
C'est pour ça qu'en fait, c'est une bonne chose, ça. Ça permet de la transparence.
OK, ben on va continuer un peu sur cette idée-là.
Oui.
Donc, tu dis qu'il y a des bons sondages, il y a des moins bons sondages, mais moi, j'entends beaucoup... de critiques des sondages. Je pense qu'on a fait le tour d'une critique qu'on entend souvent, là, que les sondages non probabilistes sont pas fiables, on peut pas s'y fier. Je pense que tu nous as très bien expliqué ça plus tôt. On reviendra pas là-dessus. Tu nous as bien expliqué, dans le fond, que les sondages probabilistes, c'était dans l'ancien temps. C'est plus possible de faire ça.
C'est plus difficile.
C'est plus difficile et que, dans le fond, les méthodes, je dirais, plus créatives avec les panels de gens qui s'inscrivent sur Internet puis les échantillons qu'on bricole quasiment à la main, là, tu nous as bien expliqué qu'ils sont plus fiables qu'un sondage qui serait probabiliste avec une liste et un échantillon composé de personnes âgées qui font partie à peu près du 0,5% de la population qui répondent au téléphone à l'heure du souper. Bref, exact. On a fait le tour de cette question-là, mais je vais t'amener sur une autre critique qu'on fait des sondages.
Oui.
Puis ça, on l'a vu beaucoup à la télé, là, surtout dans la, je dirais pas la semaine, la soirée électorale, mais plutôt la semaine électorale mm-hmm. qu'on a vécue aux États-Unis.
Ouais.
Les sondages se trompent tout le temps. Les sondages se sont trompés pour Trump à la première, quand il a gagné en 2016. Ils se sont encore trompés aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à répondre à cette critique-là?
Bon, deux choses. Parlons de 2016 rapidement, si tu
oui,
permets.
Let's go.
Parce qu'en 2016, la critique des sondages venait du fait que le favori n'a pas gagné.
Essentiellement, oui.
Sauf que celui qui a gagné, Donald Trump, mm-hmm. avait de très bonnes chances de okay. l'emporter. Et donc, ça, je crois, ben justement, quand j'ai dit tantôt que ça m'a motivé justement à commencer Québec 125, c'est que c'était clair que Donald Trump n'était pas le favori, mais c'est comme si le Canadien mène 3-1 en début de troisième période. Ils vont probablement gagner, mm-hmm. mais pour ceux qui ont suivi le Canadien, ça arrive des fois qu'ils vont perdre. Et donc, Hillary Clinton était la favorite, mais selon les calculs que j'avais, et d'autres sites étaient pas autant téméraires que le New York Times, mm-hmm. Qui disait 98-99%, ce qui ouais. est complètement ridicule. Moi, j'avais un tiers, deux tiers.
OK.
Et donc,
tu avais déjà commencé un petit peu ton modèle à ce moment-là pendant l'élection. Tu t'amusais avec tes, oui. tes chiffriers Excel.
C'était une petite feuille Excel que je m'étais montée et que j'ai ensuite, bien sûr, raffinée. Mais je regardais les sondages, j'étais comme, il suffirait d'une erreur de 2 points en faveur de Donald Trump puis il pourrait gagner. Puis une erreur de 2 points, c'est bien l'intérieur de la marge d'erreur.
Ouais.
Et c'est ça qui est arrivé.
Exactement.
Hillary Clinton était projetée de gagner le vote populaire par 3 ou 4 points. Elle l'a ouais. gagné par 2.
Okay.
Ce qui est excellent.
Ouais.
Ce qui est excellent. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a eu certains États, dont le Wisconsin et le Michigan. Les sondages locaux là-bas donnaient 5-6 points d'avance à Hillary Clinton, alors qu'elle a perdu par un demi-point. Donc okay. ça, c'était quelques erreurs. Mais de dire, de faire une phrase sans nuance, dire « les sondages se sont trompés », c'est ne pas vraiment regarder les chiffres et la réalité. Alors que c'était une surprise, mais ce n'était pas un tremblement de terre d'une fois ouais. par siècle, là.
Donc, tu nous dis, dans le fond, si on revient à notre lexique du début,
oui.
la plupart des sondages, si on compare les sondages avec les résultats, on était quand même dans la marge d'erreur.
Absolument.
Ce qui est tout à fait je dirais, normal d'un point de vue statistique.
Si, en 2016,
oui.
Hillary Clinton avait gagné par 6 points, ça aurait été une plus grande erreur de sondage que qu'elle ait gagné par 2 points. Et donc, c'est ça aussi, c'est que si elle avait gagné par 6-7 points, personne ne parlerait de 2016 comme une erreur de sondage, alors que c'en était une.
Ça aurait été pire.
Et même, je me rappelle de l'élection présidentielle en France que Macron a remportée. Les sondages se sont trompés, mais ils disaient tout qu'elle a gagné, et donc personne ne s'en rappelle. Les sondages se sont trompés de 5 points. Mais encore une fois, c'était une élection serrée, et celui qui on croyait être le favori a perdu, c'était Madame Clinton.
Mais tu sais, en même temps, c'est pas un peu ça qu'on demande aux sondages électoraux de prédire le gagnant? C'est pas ça que le public demande, c'est pas ça que les médias demandent, au-delà des considérations qui intéressent seulement les statisticiens. C'est pas ça qu'on attend des sondages?
Ben, je crois que c'est justement une erreur de croire que les sondages peuvent, un, être parfaits, et deux, surtout dans un système aux États-Unis qui fonctionne par État avec le collège électoral. Je veux dire, Mme Clinton a eu 3 millions de votes de plus. Je veux dire, c'est ridicule de penser qu'elle a perdu, mais bon, c'est leur système à eux.
Ouais.
Et donc, c'est les sondages nationaux et les sondages par État, il faut tout déconstruire ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail, crois-moi, parce que je viens de passer au travers de l'élection de 2020 et ça fait 2 semaines que je dors maintenant. Donc, mais juste, puis maintenant, pour revenir à 2020, il y a eu une erreur de sondage au niveau national d'environ 4 points, ce qui est encore à l'intérieur de la marge d'erreur, mais on voit que c'est du même côté, fait qu'il y a un problème. C'est comme jouer au blackjack puis avoir 21 un petit peu trop souvent. Tu te dis, est-ce que les dés sont pipés?
Comme
est-ce
un biais vers le Parti démocrate.
Exactement. Donc, il y a définitivement un problème que les sondeurs américains doivent regarder et étudier de ce côté-ci. Mais de penser que c'était absolument pourri et que l'industrie du sondage s'en va dans les toilettes, c'est une grave erreur selon moi. Faut bien sûr qu'il s'améliore. Et c'est étrange parce qu'il y a 3 sondeurs canadiens, Léger, Research Co. et Angus Reid, qui ont fait des sondages aux États-Unis et ils sont parmi les meilleurs. Ils sont pas parfaits, on va le dire. Ils ont tous sous-estimé Trump, mais ils étaient pas loin. Ils avaient peut-être 5 points d'avance pour Joe Biden. Donc, c'était proche.
Donc, si on fait le lien avec ce que tu disais tantôt, ils veulent agrandir leur marché.
Absolument.
Ils cherchent à s'implanter aux États-Unis.
Absolument.
Je reviens avec sur les critiques des sondages. Et là, c'est une autre critique qu'on voit souvent là, dans les pages d'opinion des journaux. Ça ressort souvent à chaque élection.
Les pages d'opinion,
c'est en lien avec ce que tu disais tantôt, l'effet de vague. On dit souvent que les sondages influencent le vote. Influencent le vote de plusieurs manières. Je te fais un peu le résumé des critiques. Des critiques les plus courantes sur les sondages. Ben, on dit que, premièrement, les sondages contribuent à amener puis même à augmenter l'effet de vague. Hein? Première critique qu'on dit, c'est-à-dire que bon, s'il commence à avoir des sondages favorables envers un parti, je sais pas, moi, la vague orange, par exemple, dont tu parlais tantôt, ben là, les gens vont se dire, ben, tu sais, pourquoi pas? Quelques années plus tard, ça a bénéficié aux libéraux, ça, au fédéral, l'effet de vague. Donc, est-ce que c'est bon dans une démocratie d'encourager ça? La deuxième critique qu'on donne aussi, c'est qu'on dit que ça favorise encore plus ça favorise beaucoup le parti qui mène dans les sondages. Entre autres parce que les gens il y a beaucoup de gens qui vont se décourager d'aller voter. Ils vont dire, ben, tel parti mène, donc j'irai pas donner mon vote ni à ce parti-là, ni à un parti qui est en retard dans les intentions de vote. Ça sert à rien, donc je vais pas exercer mon droit de vote. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces critiques-là?
Mon Dieu. En passant, ta question est tout à fait légitime parce que j'ai souvent reçu ce genre de critiques-là. Même si, je le dis, je ne suis pas sondeur, je suis analyste de sondage. Donc, je lis beaucoup cette critique-là.
Ouais.
La première chose, est-ce que les sondages influencent? Et ça, c'est une question qui me fascine parce que le mot « influencer », qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, pendant une campagne électorale, il y a de la publicité à la radio, de la publicité à la télévision. Facebook est rempli de messages qui essaient de vous influencer. Il y a des pancartes dans les rues et dans les billboards partout au Québec, ouais, ou sur le bord des autoroutes. Il y a des éditoriaux. Il y a... je veux dire...
C'est la base d'une campagne électorale.
Tout est fait pour t'influencer.
Exactement.
Alors que le sondage, s'il est bien fait, bien sûr, on parle... Tu sais, je prends l'exemple d'une mauvaise recette de gâteau, c'est pas très bon pour les gâteaux. Donc, tu sais, un mauvais sondage, bien sûr, c'est pas très bon. Mais un sondage, s'il est bien fait... C'est la seule mesure objective et scientifique qu'on a sur une campagne, okay, électorale. On vous donne le score de la game au, okay, hockey. Et donc, et donc, de penser que les sondages peuvent influencer, premièrement, ce n'est pas prouvé. Des études de toutes sortes là-dessus, est-ce que les sondages vraiment influencent? Ouais. Mais aussi, c'est que de penser que d'avoir de l'information sur ce que, mm-hmm, pense l'électorat, mm-hmm, est antidémocratique, pour moi, c'est complètement fou. Il y en a qui veulent bannir les sondages, mais qui veulent garder Facebook. Ce qui est complètement insensé. Mais aussi...
Il n'y a pas de calcul de la marge d'erreur sur Facebook.
C'est ça, mon Dieu, non. Donc, est-ce que c'est mal d'influencer pendant une campagne électorale? Ben, en partant, je ne sais pas, mais tous les partis politiques veulent faire ça. Mais revenons à l'instant, justement, au sondage. Moi, j'ai un ami qui était un péquiste, que j'ai vu un sondage, mm-hmm, qui a vu les libéraux en avance. Ouais. Il a fait, OK, je vais voter pour les libéraux. Okay. Non, ce n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est partisan d'un parti et qui regarde, oh, mon parti est deuxième, moi, je vais voter pour les premiers.
Ouais.
Ça
se fait quand même un petit peu au fédéral. Je veux dire,
le vote stratégique.
Moi, je connais de fervents indépendantistes qui ont voté pour Trudeau au fédéral. Est-ce que le...
J'en connais pas, mais OK.
Justement pour bloquer les conservateurs. Donc, autre critique qu'on peut apporter au sondage, est-ce que ça encourage pas beaucoup trop le vote stratégique?
L'affaire, c'est qu'avec le vote stratégique, c'est qu'il va avoir lieu de toute façon, mais ça va être basé sur des impressions, okay, au lieu d'être basé sur des chiffres. Okay. Tu sais, encore une fois, ceux qui disent qu'il ne devrait pas avoir de sondage, vous voulez remplacer ça par quoi? Par des chroniqueurs de tabloïdes qui vont, mm-hmm, vous dire leurs opinions? Je veux dire, encore une fois, tu sais, les sondages vous donnent de l'information. Ce que les citoyens en font avec, c'est leur problème. Ouais. Mais aussi, surtout, et je veux y arriver, moi aussi j'avais un blanc, mais un instant, mais c'est que les gens qui n'aiment pas les sondages... ont deux choses en commun. Premièrement, ils ne connaissent rien aux statistiques. Ils ne connaissent rien. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'y connaît, qui compte les sondages. Ouais. Deuxièmement, ils ne se rendent pas compte que leurs politiciens favoris, ouais, eux autres, ils aiment les sondages.
OK.
Ils aiment les sondages parce que les partis politiques...
Pourtant, ils disent toujours, je ne lis pas les sondages.
Et ils vous mentent. Ils vous mentent. Je le sais parce que, justement, ce qui a fait que Québec 125 est devenu très populaire, ouais, rapidement, c'est que, soudainement, j'ai commencé à avoir des courriels de partis politiques, uh-huh, et d'attachés politiques, ouais, pour poser des questions. C'est, hey, qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières? Qu'est-ce qui se passe à Québec? Et donc, ils sondent constamment. Ouais. Un politicien qui donne un speech a probablement fait un sondage sur le contenu de son speech. Quand tu vois François Legault, dernière élection provinciale, après les débats, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a pris l'autobus, il est allé en Abitibi, puis il est allé à Chibougamau, puis il a fini au Saguenay. Pourquoi il a fait ça? Parce que ses sondages internes disaient ces comtés-là sont serrés, puis, ouais, je pourrais balayer la région. Ouais. Et donc, ils font les sondages constamment, ouais, pour diriger leur campagne et même ajuster leur politique. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que la population ne devrait pas avoir accès à cette information-là?
Ouais. Okay.
Ça devrait être juste les politiciens qui ont le droit de l'avoir. Bien sûr, c'est ridicule. Et donc, encore une fois, je crois que plusieurs critiques des sondages viennent du fait que certains sondages ratent la cible et qu'il y a déjà, ouais, eu vraiment des mauvais sondeurs. Mais lorsque le sondage est bien fait, c'est de l'information. Ce que les gens font avec, sont libres de le faire.
Donc, tu nous dis, dans le fond, les sondages, comme ils sont basés, même s'ils sont faits par des maisons privées, sont basés, dans le fond, sur un solide fondement scientifique.
Oh mon Dieu, oui.
Donc, ça assure que l'information factuelle est quand même assez fiable. Donc, d'une certaine manière, ça, au lieu de nuire à la démocratie, ça améliore la démocratie. Ça serait peut-être même un rempart pour protéger la démocratie, un rempart de la démocratie. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
J'en pense que j'ai souvent vu des politiciens qui se font poser des questions sur un sondage, puis ils vont dire « Oh, c'est pas ce que j'entends sur le terrain. Uh-huh. » Et je vais toujours croire le sondage plutôt que ce qu'on entend sur, uh-huh, le terrain. Parce que tu entends sur le terrain, tu as une opinion biaisée. Tu as des gens qui veulent te parler. Et donc, bien sûr, et je veux dire, il s'est passé quelque chose aussi en 2014, l'élection que Pauline Marois avait, ouais, perdue. Ce qu'on a su, c'est qu'elle avait été surprise de perdre, ouais, parce que ses sondeurs internes, ouais, lui indiquaient que c'était beaucoup plus serré. Elle a perdu par 14 points. Uh-huh. Par 16 points, pardon. Elle a perdu par 16 points. Et donc, c'était pas serré à la fin. Mais elle s'est faite induite en erreur par, ouais, de mauvais chiffres, des chiffres internes.
Ouais.
Si elle avait plus suivi les chiffres qui étaient publics, elle aurait vu qu'elle allait perdre et perdre, en fait, assez facilement. Et donc, l'erreur ici n'était pas le sondage, c'était des mauvais sondages internes.
Qu'est-ce qui explique ça? C'est des gens qui veulent plaire au boss ou des...
Des sondages partisans, c'est souvent problématique parce que les gens n'aiment pas entendre des mauvaises nouvelles. Les gens n'aiment pas entendre des mauvaises nouvelles. Dans Astérix, le devin, comment est-ce que le devin arrive à convaincre tout le village qu'il a raison? Il fait juste leur dire des belles affaires. Mm-hmm. Et souvent, surtout des petites maisons de sondage qui essaient de percer, qui ont un client comme, par exemple, le Parti québécois ou Québec solidaire ou peu importe, je dis pas que c'est honnête, je dis pas que c'est ça qu'ils vont faire nécessairement, mais ça arrive des fois qu'ils vont faire plusieurs sondages, le parti va prendre le meilleur sondage et va le couler dans les médias. C'est pour ça que je ne prends jamais de sondage partisan. Je vais les regarder. Je suis intéressé, je veux regarder de quoi ça a l'air. Mais je me dis toujours, ils ont peut-être fait le sondage 5 fois, il y a une variation à chaque, ils ont pris le meilleur, ils l'ont coulé dans le Journal de Montréal, puis ils disent que c'est la vérité. Et donc, et c'est justement pour ça que c'est tellement important de faire... Je ne veux pas dire la police des sondages parce que c'est trop fort. J'ai une bonne relation avec plusieurs sondeurs, mais sur le site web, il y a une page cote des sondeurs. Et là, je recule jusqu'à 2014, jusqu'en 2020, toutes les élections provinciales, fédérales au Canada, avec qui a raté, qui a réussi, qui a raté, et je donne des notes. Et on voit quels sont les sondeurs qui réussissent.
Les sondages sont un rempart important de la démocratie. Toutefois, plusieurs démocraties encore les sondages. Puis tu nous dis toi-même, tu les cotes toi-même, tu les surveilles. Il faut quand même les surveiller. Je te donne quelques exemples. Donc, dans plusieurs pays au monde, il est interdit de publier les résultats de sondage 24 heures avant le vote. Parfois, ça va jusqu'à 48 heures. Puis parfois même, ça va jusqu'à 7 jours avant le vote. Des pays démocratiques comme l'Italie ou même le Luxembourg. Donc, tu peux me dire, en Italie, ils sont toujours en crise politique, mais au Luxembourg, on entend beaucoup moins parler. Mais toutefois, au Luxembourg, tu peux pas voter, tu peux pas publier des sondages 7 jours avant l'élection. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, ce genre d'encadrement? Est-ce qu'il faut encadrer les sondages? Comment le faire?
Au Canada, il est interdit de publier un sondage politique le jour de l'élection.
Oui.
Et donc, ça veut dire que généralement, certains sondeurs, à 23h59, la veille de l'élection, vont domper leur dernier chiffre.
Exactement.
Et je suis pas en désaccord avec ça. Mm-hmm. C'est vrai que lorsque l'élection a lieu, et généralement aussi les campagnes arrêtent.
Oui.
Les policiers ne font plus campagne le jour.
Il n'y a plus de publicité.
Exactement. Donc, je ne suis pas vraiment contre ça. Je trouve que c'est une bonne chose pour la démocratie qu'on laisse les gens voter le jour du vote. Je sais qu'en France, jusqu'à récemment, c'était le vendredi soir, l'élection a lieu le dimanche.
OK.
Donc là, c'est un peu plus long.
Oui.
7 jours... Il s'en passe des choses en 7 jours. Et donc ça, 7 jours, pour moi, ça, je ne comprends pas la rationale derrière ça. Encore une fois, c'est peut-être dire que les sondages influencent, mais les partis politiques vont continuer de sonder. Ouais. C'est juste que l'information ne sera pas disponible au public. Ce qui, pour moi, est un manque de transparence. Exactement. Dans une démocratie, ça devrait être transparent. Ce que j'en pense, c'est que, écoutez, ces pays-là font bien ce qu'ils veulent, mais ça m'étonne de voir des pays démocratiques, parce que les pays qui interdisent les sondages ont ceci en commun, ce ne sont pas des démocraties. Mm-hmm. Ce sont souvent des autocraties des dictatures qui ne veulent pas que des mauvaises nouvelles atteignent le peuple pour penser que le leader ne va pas bien, alors qu'on ne fonctionne pas vraiment comme ça ici. Mais aussi, c'est, comment je pourrais dire, De savoir comment légiférer contre des mauvais sondages. Est-ce que des firmes de sondage qui font des mauvais sondages, qui prédisent constamment des mauvais résultats, est-ce qu'ils devraient être punis par la loi? Il y a un débat là-dessus.
Ou par la communauté scientifique, d'une certaine manière.
Exact, mais moi, je pense que ça y va naturellement. Une compagnie de sondage qui fait des mauvais résultats fréquemment va soit faire faillite ou se faire humilier. Mmh. Et surtout, moi, je ne me gênerais pas de rentrer dedans dans une firme de sondage qui manque son coup plusieurs fois. Exactement. Toutes les firmes de sondage vont rater une fois de temps en temps. Ça arrive. Je veux dire, la dernière élection québécoise, tout le monde a raté la montée de la CAQ. On avait la CAQ à autour de 32-33%, ils ont eu 37. On avait les libéraux autour de 30, ils ont eu 25. Donc, c'était une erreur de sondage. Mais on explique ça aussi qu'il y a eu un mouvement de dernière minute vers la CAQ.
Ouais.
Et donc, ça a été assez documenté. Je dirais plus de transparence dans une société démocratique, c'est important. Les sondages en font partie.
OK. Merci, Philippe. Je terminerai avec une question peut-être un peu plus personnelle ou d'opinion. Laquelle des prochaines campagnes électorales sera la plus intéressante à observer d'un point de vue des sondages? C'est-tu la prochaine élection municipale, fédérale, provinciale?
Le municipal est difficile parce que le taux de participation est très bas. Mm-hmm. Fait que tu pourrais très bien appeler quelqu'un qui dit « Non, moi, je l'aime pas Valérie Plante, mais qui ira même pas voter. » Ça, c'est un problème pour les sondeurs. Donc ça, c'est plus difficile. Okay. Je vois que tu n'as pas de titillement pour l'élection de Terre-Neuve qui va avoir lieu l'été prochain.
Parle-nous-en, moi.
difficile à dire. Tu sais, Terre-Neuve, c'est gros comme Laval. Il y a 40 circonscriptions, donc c'est assez difficile. Et en fait, non, plus sérieusement... On a un gouvernement minoritaire à Ottawa.
Ouais.
Donc, ça veut dire que l'élection pourrait avoir lieu presque n'importe quand. Des bonnes chances qu'on ait une élection au printemps, juste avant le budget, mm-hmm. considérant la COVID. Ce serait défendable de la part des libéraux de dire on a le plus grand déficit de l'histoire du pays. Mm-hmm. Ben, donnez-nous le contrôle ou bien votez pour un autre parti. Mm-hmm. Ça serait légitime. Mais l'année 2022 devrait être le fun. On va avoir en Ontario, on va avoir Québec, peut-être fédéral. Et ensuite, l'année suivante, ça va être l'Alberta. Donc, toutes les grandes provinces sont intéressantes. Donc, moi, c'est sûr que je vais suivre ça. Et si je peux juste dire un petit mot en terminant, bien des gens disent « Moi, je regarde pas ça, les sondages, j'aime pas ça. » Pendant l'élection québécoise, mon site a eu 11 millions de pages vues en 2018. Donc, les gens qui disent qu'ils n'aiment pas les sondages, je pense qu'ils mentent.
Bon, ben sur ça, merci. Et on te suivra là, au cours des prochaines élections sur ton blog et dans tes différentes apparitions dans les médias. Merci, Philippe.
Merci beaucoup, Alexandre. Très apprécié.